Bonjour à tout le monde. Je vous invite à prendre vos Bibles et trouver 1 Timothée chapitre 3. Alors ne regardez pas vos montres, mais nous commençons tard le temps de la prédication. Mais je sais qu'il y en a qui me gronderaient si on coupait court la prédication simplement à cause de l'heure. De plus, c'est peut-être la dernière fois que je vais prêcher un dimanche matin ici, pendant très longtemps, donc je ne crains pas de vous déplaire dans ce sens. Vous savez, on va en parler plus tard, que c'est la dernière fois que les deux églises de Sarcelles et de Saint-Denis seront ensemble le dimanche matin. Et dans la providence de Dieu, il nous a guidés il y a plusieurs années à fonder, implanter une nouvelle église avec votre aide. Quand nous sommes venus en 2012, je parle de la famille Cole et notre famille, on nous a demandé si, puisque nous étions ici à Saint-Denis, si on pouvait, Michael et moi, faire partie donc du collège de pasteurs. Et on a réfléchi à cela et on a dit oui, mais à condition que vous nous aidiez à implanter cette nouvelle église. Parce que si nous sommes partis vraiment de cette église, il faut que l'implantation se fasse de l'intérieur. Et donc ça a été amené devant l'église même et vous avez accepté cela. Les pasteurs ici ont accepté de nous aider. Et je ne pense pas qu'ils avaient en tête tout l'effort que ça allait leur exiger. Mais nous sommes très reconnaissants à Sarcelles que vos pasteurs, vos trois pasteurs, sont aussi pasteurs de l'église baptiste qui est à Sarcelles. C'est-à-dire qu'ils surveillent aussi l'église. Ils sont là une fois par mois, quelqu'un est là pour prêcher. Je travaille avec eux, je suis moi-même soumis à eux et nous sommes donc très reconnaissants pour la part que vous avez encore dans notre assemblée. Et donc je voulais aujourd'hui parler de l'Église de Dieu. C'est le titre d'ailleurs que j'ai donné à mon serment, l'Église de Dieu. 1 Timothée chapitre 3. Et avant de lire le texte, je veux dire en guise d'introduction que je crois que la question la plus importante pour évaluer l'état spirituel d'une personne est probablement celle-ci. Que penses-tu de Jésus-Christ? Vous pouvez demander ça à vous-même ou à d'autres. Que penses-tu de Jésus-Christ, de sa personne, de son identité, le Créateur, le Rédempteur, le Seigneur des Seigneurs, le Fils de Dieu, etc. Et aussi de son œuvre accomplie ici-bas sur la terre. Est-il réellement le seul espoir pour ton âme? Ce qu'il fait est-il suffisant pour plaire aux exigences placées sur toi par un Dieu trois fois saint? Que penses-tu de Jésus-Christ? Et donc je vous pose la question ce matin et je vous demande de répondre devant Dieu à cette question. Mais une deuxième question s'ajoute à cette première. Et elle est celle-ci. Que penses-tu de l'Église de Jésus-Christ? Je pense que la réponse qu'on donne à cette question révèle aussi notre état spirituel. Que penses-tu de l'Église de Jésus-Christ? Éphésiens chapitre 1 verset 23 dit que l'Église, écoutez, est son quoi? Corps. C'est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Il dira quatre chapitres plus tard que l'union entre Christ et son Église est tellement intime que l'union du mariage n'est qu'un faible et temporaire aperçu de l'union qu'a Christ avec son épouse qui est l'Église. Et que Christ aime l'Église plus qu'un homme aime son propre corps. Alors que pensez-vous de l'épouse de Jésus-Christ? Jésus-Christ a donné toute une vie pour elle, depuis la crèche jusqu'à la croix, on a chanté de ce fait. Quelle valeur attribuez-vous à l'épouse de Jésus-Christ? Question qu'on doit tous se poser. L'implantation de cette église locale à Sarcelles a déjà demandé beaucoup d'efforts. Plusieurs ici ont sacrifié leur temps, leur argent pour aider à son implantation. Mais il n'y a qu'un seul qui a versé son sang pour elle. Acte 20, 28 dit que l'église est l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Alors mon but ce matin, c'est de vous motiver à vous investir dans votre église locale, que ce soit ici à Saint-Denis, à Sarcelles ou ailleurs, là où vous êtes. Et puis deuxièmement, de vous aider à mieux comprendre pourquoi vous et moi, nous avons l'obligation de nous comporter d'une certaine manière ou façon au sein de l'église. Et donc il y a une partie de motivation, une partie aussi d'avertissement. Et pour ce faire, je veux qu'on puisse capter la vision qu'a Jésus-Christ ou qu'a Dieu lui-même de son Église. Et je veux surtout m'attarder sur le rôle que l'Église a dans le monde. Car c'est le rôle qui touche tout particulièrement au défi qu'a accepté l'Église de Saint-Denis à implanter une autre Église. Parce que nous croyons que l'Église, en tant qu'Église, a un rôle dans le monde. Et cela nous pousse à poser cette question. À quoi sert l'Église pour le monde? Quel est le rôle de l'Église dans le monde? Est-ce que vous avez une réponse qui vous vient à l'esprit? Et c'est ici où je vous demande de regarder dans vos Bibles la lettre que nous appelons souvent 1 Timothée, donc la première lettre à Timothée, le chapitre 3, écoutant les paroles inspirées de Dieu, écrites par Paul à Timothée, les versets 14 et 15. Il dit « Je t'écris ces choses » avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire, où? Dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Alors Timothée qui reçoit cette lettre se trouve en Éphèse, la ville d'Éphèse. Paul a lui-même travaillé près de 3 années dans cette ville pour aider à l'implantation de cette église. Elle était, par la grâce de Dieu, dotée de déjà plusieurs pasteurs anciens. C'est Acte 20 qui nous le fait savoir. Et ici, nous voyons que Paul veut revenir. Il dit « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi ». Il veut revenir voir encore cette église et avoir un ministère au sein de cette église. Même si elle soit une église assez grande, plutôt stable, Paul désire qu'elle progresse encore de plus en plus. Vous savez, on est souvent trop facilement satisfait par notre progrès spirituel, que ce soit personnellement, que ce soit pour notre église. Bon, nous y sommes, on veut avoir l'impression que nous sommes arrivés, qu'il n'y a plus de progrès à faire. Et non, Paul veut encore investir dans cette grande église d'Éphèse. Et c'est pour cela qu'il dit, notez le verset 15, « Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Comment faut-il se conduire dans l'église? Et pour bien apprécier ce texte, il faut regarder le contexte pour savoir la conduite à laquelle il fait référence. Ce n'était pas mon intention au début, je voulais juste m'attarder sur ces versets. Mais je me suis dit, pour bien l'apprécier, il faut voir d'abord la conduite exigée dans l'église locale. Parce qu'il dit, je t'écris ces choses, comme ça tu sauras comment il faut se conduire. C'est un mot fort, hein, il communique une vraie exigence divine. Il faut se conduire d'une certaine façon dans la maison de Dieu. Il termine une section qui commence en fait au chapitre 2. Donc si vous reculez dans vos Bibles jusqu'au début du chapitre 2, nous allons considérer quelques-uns de ces exigences de conduite. On peut, pour utiliser une expression anachronique, considérer un peu comme le code de la route pour l'église locale. Comment il faut se conduire? 1 Timothée 2, verset 1, il dit « J'exhorte donc avant toute chose » ou « en premier lieu ». Il va donc exhorter cette église avec plusieurs choses. Et la première chose concerne la prière. À faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Donc ces prières sont basées sur la bonne volonté de Dieu de sauver tous les hommes, il dira au verset 4, et sur l'efficacité de sa grâce quand il travaille dans le cœur d'un pécheur. C'est pour cela qu'il nous exhorte à prier pour leur salut. Il résume ce premier domaine dans le verset 8 en faisant application surtout aux hommes de l'assemblée. Il dit « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. » Il veut que les hommes participent au culte avec les mains pures. Et il définit ce qu'il veut dire par des mains pures par deux négations. Vous les voyez? Sans colère ni mauvaise pensée. Si vous êtes un homme, je vous encourage de souligner ces deux choses. Sans colère, ni mauvaise pensée. Voici les deux domaines dans lesquels les hommes doivent s'efforcer d'avoir des mains pures. Le domaine de la colère et le domaine de la pureté morale. Sans des mains tachées par la colère, ni par des pensées immorales. Imaginez qu'on pouvait enlever de nos prisons tous les hommes qui sont là pour des crimes commis soit sous l'impulsion de la colère, soit sur l'impulsion sexuelle. Il n'y aurait pas grand monde qui reste. Et voici donc comment les hommes doivent se conduire dans la maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Avec des mains pures, des pensées pures. Pur, sans colère. Alors, est-ce qu'il y a d'autres exhortations apostoliques concernant la conduite à avoir dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité? Oui. Regardez le verset 9. 1 Timothée 2, 9, il dit « Je veux aussi que les femmes, et donc ayant parlé aux hommes, l'apôtre, sous l'inspiration du Saint-Esprit, hein, nous le prenons comme des paroles de Dieu, s'adresse aux femmes de l'Assemblée. Il dit « Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elle se pare de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. » Et si vous êtes une femme, je vous encourage de souligner ces mots « vêtus d'une manière décente, avec pudeur et modestie. » Alors nous savons que ce n'est pas, et c'est une question logique à se poser, hein, mais nous savons que ce n'est pas une interdiction formelle contre les tresses, contre l'or, et contre les perles. Pourquoi? Eh bien parce que quand Pierre parle du même sujet, en 1 Pierre 3, verset 3, il dit ceci, écoutez, il dit « Ayez non cette parure extérieure, qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or, ou les habits qu'on revêt. » Alors c'est sûr que quand Pierre dit aux femmes que leur parure ne consiste pas dans les habits qu'on revêt, qu'ils veulent que les femmes enlèvent leurs habits. Donc c'est sûr que dans l'esprit même de l'auteur qui écrit ces choses, il ne parle pas d'une négation complète ou une interdiction complète, formelle. Mais il ne faut pas non plus la minimiser simplement parce que tout le monde la minimise. Vous, les femmes qui font profession de servir Dieu, hein, c'est ce qu'il vous appelle ici, Dieu le dit ici en noir et blanc, il vous exhorte à vous vêtir d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Et ce n'est pas, je crois, sans importance que juste après avoir dit aux hommes de ne pas avoir des pensées mauvaises, il dit « je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, etc. » Il parle d'abord aux hommes, et c'est un point important. Votre pureté de pensée, vous les hommes, nous les hommes, est notre responsabilité malgré ce qui se passe dans le monde autour de nous. Mais il y a indubitablement un lien, et donc il va sans transition à la façon que les femmes s'habillent, et c'est clair que le souci de Dieu est que les femmes dans nos églises n'attirent pas la gloire mondaine avec des habits, comme il dit ici, des habits somptueux, ni des regards indiscrets avec des habits sensuels. C'est les deux idées présentées dans ce texte. On peut le résumer avec les mots le luxe et la luxure. Ou si vous désirez une règle facile à retenir, et je dis ça en souriant, mais si ça peut aider, pas trop cher et pas trop de chair. Voilà, à vous de réfléchir. Mais quelqu'un dit, ah, il faut pas créer de règles. Mais Dieu nous parle et il dit, c'est ma maison. C'est mon église. J'ai le droit de créer les règles et voici comment vous devez vous conduire dans la maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et l'Esprit Saint va dire au pasteur un peu plus tard, en 2 Timothée 4, prêche la parole, c'est-à-dire cette parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Et quelqu'un dit... Quelqu'un d'autre dit, bon, c'est la motivation qui compte. Mais notez que Dieu ne parle pas de motivation ici. Il parle de la façon de s'habiller. Il parle, pour utiliser les mots de Pierre, d'une parure extérieure. Et je serais un mauvais ministre de la parole si je vous faisais croire que c'est simplement vos motivations qui comptent. C'est aussi votre parure extérieure. Il parle aussi... dans ce chapitre, et je ne vais pas prendre le temps de le lire, du silence exigé aux femmes dans l'assemblée. Elles n'ont pas le droit d'enseigner publiquement la parole de Dieu aux hommes. Et aussi, là aussi, nous croyons que ce n'est pas une interdiction formelle et complète, parce que le même esprit nous dit en 1 Corinthiens 11 que les femmes peuvent prier et prophétiser avec les têtes couvertes. Mais il passe aussi à une conduite imposée au pasteur. Regardez le chapitre 3, verset 2. Il faut donc que l'évêque, le surveillant, le pasteur, l'ancien, soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite. Encore sa conduite, vous voyez. Il y a aussi une conduite imposée aux diacres. Regardez 1 Timothée 3, verset 8. Les diacres aussi doivent être honnêtes. Éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Et on termine toutes ces exhortations dans les chapitres 2 et 3 et on se dit, mais c'est pas un peu exigeant quand même? N'est-il pas un peu trop pointilleux? Il faut faire quand même quelques concessions à la culture moderne. Il faut être conscient de ce que les gens recherchent dans une église. Il y a des personnes qui nous reprocheraient le simple fait de lire ces exigences publiquement devant l'église. Nous avons même parfois honte, et je comprends, du code de conduite que Dieu nous donne. Et c'est donc ici où il faut toujours garder dans le cœur et devant les yeux ce qu'est l'Église locale. Et c'est clair que Paul parle à Timothée dans ce contexte de l'Église locale, parce qu'il va parler des femmes, des pasteurs, des diacres, etc. Il y a vraiment l'Église locale à Éphèse en tête, et il dit, pour revenir à notre texte, verset 14, chapitre 3, « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais si je tarde, tu sauras comment maintenant il faut se conduire dans la maison de Dieu. » On a déjà vu cela. Mais qu'on garde cela en tête. C'est la maison de Dieu, l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Nous avons deux choses ici. Nous avons une définition de l'église dans sa relation à Dieu et nous avons la fonction de l'église dans sa relation au monde. Donc, quelle est la définition de l'église dans sa relation à Dieu ? Il y a deux choses ici. Et la première, vous voyez au verset 15, il dit, tu sauras comment il faut se conduire où ? Dans la maison de Dieu. L'église locale, comme l'église universelle, mais l'église locale aussi, est la maison de qui ? La maison de Dieu. Ici, à Saint-Denis, il y a la maison de Dieu. Si vous cherchez un jour dans votre Bible pour cette idée de la maison de Dieu, mais est-ce que la Bible parle de la maison de Dieu ? Vous allez probablement reculer jusqu'en Genèse chapitre 28, où il y a l'histoire de Jacob. Et là, il a une vision, et Jacob se réveille après son sommeil, et il dit, « Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais même pas. » Il eut peur, et il dit, « Ce lieu est redoutable, c'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. » Et il donne à ce lieu le nom de quoi, vous savez ? Bethel, qui veut dire maison de Dieu. Bethléem veut dire maison de pain. Beth-el, Elohim, maison de Dieu. Et plus tard, Dieu a choisi un lieu pour résider. C'était au début une tente qu'on appelait le tabernacle. Et puis, au temps de Salomon, un temple. Et le nom donné à ce lieu où l'Éternel faisait sa résidence était la maison de Dieu. Juste un exemple que je tire de 1 Roi chapitre 8. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Vous voyez ? Et j'ai fait une recherche dans Louis II pour la phrase « maison de l'Éternel ». Et cette phrase apparaît 257 fois. Ça m'a surpris. On le trouve beaucoup dans l'Ancien Testament. Et bien sûr que Dieu est partout. Salomon le dira même dans ce chapitre. Il dit, mais le ciel et les cieux ne peuvent pas te contenir, combien moins cette maison. Mais néanmoins, c'est le lieu où Dieu est vraiment, si vous voulez, chez lui. C'est sa maison. C'est son temple. En fait, c'est cette vérité que nous trouvons dans 1 Corinthiens chapitre 3 et verset 16. Au chapitre 6, il dira que nos cœurs sont le temple du Saint-Esprit. Ça, c'est vrai, mais ici, il dit, ne savez-vous pas que vous, et c'est au pluriel, donc vous, vous êtes le temple singulier. Vous êtes ensemble, en tant qu'assemblée, le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Nous sommes le temple de Dieu, la maison de l'Éternel. C'est ce que nous sommes. Et voyez-vous pourquoi nous ne pouvons pas faire n'importe quoi, ni n'importe comment. Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes la maison de l'Éternel. Relisez tout ce que dit l'Ancien Testament concernant le tabernacle et le temple avec ceci à l'esprit. Tout cela préfigure et illustre ce qu'est notre assemblée actuellement. Nous sommes le temple, la maison de l'Éternel. Quand j'étais jeune, on m'a appris le proverbe, vous connaissez peut-être, « Fais comme chez toi, mais n'oublie pas que tu es chez moi. » Dieu nous dit, en somme, la même chose, « Venez, venez comme vous êtes, hein, comme ils disent à McDo. Venez comme vous êtes, dans vos péchés, avec vos lacunes, mais n'oubliez pas que vous êtes chez moi. Ici, c'est chez moi. C'est ma maison. L'église locale est sa maison. Pour au moins trois raisons, je vous donne rapidement. Et c'est sa maison parce qu'il est le bâtisseur. Et Jésus a dit, Matthieu 16, 18, « Je bâtirai mon église. » Donc c'est lui qui a construit cet édifice. Ça lui appartient. L'église locale est sa maison parce qu'il est le propriétaire aussi. Acte 20, 28 dit que nous sommes l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Il a acheté, il a payé cher. C'est à lui. L'église locale est aussi sa maison parce qu'il est l'occupant. Comme nous venons de lire en 1 Corinthiens 3, 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» C'est ça qui donne la gloire à ce temple. En Ézéchiel, ça parle du temple et le prophète voit la gloire de Dieu qui quitte en fait le temple. Et donc, ce qui reste, c'est vide, n'a plus de valeur parce que la gloire de l'Éternel n'y est plus. Mais dans cette maison, son Esprit habite. Jésus a dit, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Bien sûr, il est partout, mais sa présence est spéciale et spécifique dans sa maison. Et nous sommes en fait cette maison. Nous sommes le matériel avec lequel il construit cette maison. Nous sommes, pour utiliser les mots de Pierre, les pierres vivantes avec lesquels il construit ce temple dans lequel il veut habiter. Mais c'est lui qui le construit, c'est lui qui l'a racheté ou acheté, c'est lui qui l'occupe. Nous sommes la maison de Dieu. Il dit deuxièmement, nous sommes l'église du Dieu vivant. Regardez le verset 15. Il dit, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant. Alors, il faut toute votre attention pour ce point très important. Dans la Bible, le mot « église » n'est jamais l'édifice dans lequel les gens vont se rassembler pour faire un culte public. Quand vous lisez le mot « église » dans la Bible, il faut bannir de votre pensée la notion de bâtiment ou d'édifice ou de salle. Une église est une communauté de personnes qui forment un corps social. C'est une communauté. Nous sommes la communauté ici, il dit ici, du Dieu vivant. À Éphèse, il y avait la communauté de Diane, connue par les Grecs comme la déesse Artémis. Il y avait certainement d'autres communautés d'idoles. Et c'est intéressant qu'en Acte 19, le mot « église » est utilisé pour un rassemblement de païens à Éphèse, dans cette ville. Donc il y avait d'autres églises, si vous voulez, d'autres communautés. Mais il y avait aussi à Éphèse des hommes et des femmes, des garçons et des filles qui s'étaient retirés de ces autres communautés d'idoles pour se joindre à la communauté du Dieu vivant, à l'église du Dieu vivant. Ils sont, selon les mots d'un Thessaloniciens 1, 9, converti à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu, quoi, vivant et vrai. Voici donc la définition de l'Église dans sa relation à Dieu. Elle est la maison de Dieu et elle est l'Église ou elle est la communauté ou l'assemblée du Dieu vivant. Considérez avec moi, deuxièmement, la fonction de l'Église dans sa relation au monde. Reprenez le texte et regardez-le, s'il vous plaît. Il dit, je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, verset 15. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire, là, cette partie-là? La colonne et l'appui de la vérité. Je suggère que c'est la fonction de l'Église par rapport au monde. Et avant de considérer cette métaphore, celle de l'Église étant la colonne et l'appui de la vérité, je veux juste vous rappeler d'une autre métaphore que j'ai déjà mentionnée, qui se trouve en Éphésiens 1, et là, l'Église est appelée le corps de Jésus-Christ. Vous vous rappelez, l'Église, il dit au verset 23, qui est son corps. Alors, considérons un instant le corps de Christ par rapport au monde. Quel est le corps de Christ en relation avec le monde? Et je crois qu'il y a quelque chose à apprendre de cette métaphore. Et le moyen le plus simple, c'est de comprendre ce qu'est notre corps envers les autres. Nous savons que nous sommes plus que corps, que nous pouvons en fait quitter ce corps pour être avec le Seigneur. Mais quand quelqu'un nous voit, quand quelqu'un nous parle, avoir une relation avec quelqu'un, il faut toujours passer par le corps. Le corps est la représentation visible de la personne. Nous sommes plus que corps, mais le seul moyen de se connaître est travers le corps. La langue qui parle, les yeux qui regardent, etc. Alors avec ceci en tête, quel est le corps de Christ dans sa relation avec le monde? Le corps de Christ, qui est l'Église, devient sa représentation visible dans le monde. Christ se montre au monde à travers l'Église. Nous sommes, dans un sens, les mains de Christ, les pieds de Christ, la bouche de Christ. Nous sommes la seule représentation visible devant le monde, nos voisins, nos amis, notre famille, du Christ. Et c'est pour ça que c'est très approprié que les païens à Antioche, ils commençaient à appeler ces gens qui suivaient Jésus des chrétiens, hein, des petits Christ, que nous disons toujours des chrétiens. Mais ça veut dire ça, petit Christ, des représentations du Christ dans le monde. Et il n'y a en fait que deux endroits dans les Écritures où l'Église est réellement définie, où la Bible dit l'Église qui est. Et le premier, c'est en Éphésiens 1, 23, où il dit l'Église est le corps de Christ. Et donc, si quelqu'un vous demande qu'est-ce que c'est l'Église, vous deviez pouvoir dire sans hésitation, l'Église est le corps de Christ. Mais là, je crois que Éphésiens parle de l'Église en relation avec la parole vivante, c'est-à-dire avec la parole qui est Jésus-Christ lui-même. Et 1 Timothée 3, 15, je pense, parle de l'Église en relation avec la parole écrite. C'est-à-dire la Bible. Elle est la colonne et l'appui de la vérité. Alors, qu'est-ce que l'Église est supposée être en relation avec la parole écrite par rapport au monde? Elle est une colonne. Nous sommes une colonne, mais qu'est-ce que cela veut dire? À Éphèse, vous le savez peut-être, il y avait un grand temple d'Artémis, déesse grecque de la chasse, de la nature sauvage, associée à la déesse romaine Diane. Elle était considérée dans l'Antiquité, ce temple, comme la quatrième des sept merveilles du monde. Et ce temple était construit dans des dimensions vraiment colossales. Plus de 137 mètres de longueur, 71 mètres de largeur. Et je vais vous montrer une photo d'une miniature construite dans un parc à Istanbul. Et qu'est-ce que vous notez en premier par rapport à ce temple? Qu'est-ce qui vous frappe? C'est les colonnes. Et là, c'est vraiment petit. Mais si vous notez ce plan, donc ça c'est comme si c'était vu d'en haut, hein. On dit qu'il y avait 127 colonnes. C'est beaucoup. Et la hauteur de ces colonnes était d'environ 18 mètres. Alors imaginez un immeuble à 6 étages. À cette époque avant Jésus-Christ. Un immeuble à plus de 6 étages, 127 colonnes. On le voyait de très très loin. Les colonnes sont encore connues aujourd'hui comme le point central de l'architecture grecque. Maintenant, souvent, on cache les colonnes. Là, les colonnes sont à l'intérieur. Souvent, on les mettait à l'extérieur. Et à Éphèse, où vivait Timothée à l'époque, se trouvait donc ce grand temple. Et on nous dit que les colonnes étaient des cadeaux des rois d'autres villes qui voulaient montrer leur loyauté, leur allégeance à Diane. Les colonnes étaient aussi richement décorées et gravées. Et donc la première chose que vous aurez vue de loin était ces colonnes. Et personne ne pensait, bon, ces colonnes sont là pour des raisons purement pratiques. Non, tout le monde savait que ces piliers étaient là pour attirer l'attention sur la grandeur de l'idole qui était logée à l'intérieur du temple. Vous vous rappelez, ils ont crié pendant 2 heures. Acte 19, 28 nous dit « Grande est la Diane des Éphésiens !» grande est la Diane des Éphésiens. Aujourd'hui, dans les rues de Paris, on chante autre chose. Mais là, c'est ce qu'ils chantaient à l'époque. Et pourtant, la tragédie est que ce Dieu vers qui attirait l'attention de ces colonnes, le Dieu dont ces colonnes prétendaient glorifier, était un Dieu mort. Et donc, vous voyez tout le sens quand il dit « Vous êtes la communauté du Dieu vivant. » Vous. Mais nous servons le Dieu vivant. Et l'Église est la colonne de la vérité. C'est cela qui tient et rend visible la vérité de Dieu. Elle tient la vérité, si vous voulez, bien en haut, comme si elle disait « Regardez, ici c'est la vérité. » L'Église donc sert à élever la parole de Dieu devant le monde. Je crois que c'est ce qu'il veut dire par cette image. Il y avait ce temple, mais il dit « Vous êtes, en tant qu'assemblée, vous êtes une colonne. » Plus importante que ces 127 colonnes de 18 mètres de hauteur. Vous êtes une colonne de la vérité. Un pilier ou une colonne est quelque chose sur laquelle vous érigez un monument, vous placez quelque chose d'une grande importance. L'Église est la colonne de la vérité. Dieu voulait une colonne dans le monde afin d'attirer l'attention sur sa parole, sur la vérité. Dieu, si vous voulez, dans le business de la vérité. Et il n'a pas choisi un temple fait de main d'homme, il a choisi une communauté de personnes pécheresses, mais sauvées par sa grâce. Dieu ne veut pas que sa vérité soit affichée dans les cathédrales, dans les grands édifices d'église ou dans les monuments. Il veut que l'église vivante, les personnes vivantes soient cette colonne. C'est notre fonction dans ce monde. Dieu veut qu'il y ait une très haute colonne ici à Saint-Denis et à Sarcelles afin de publier sa vérité. L'Église sert à élever la parole de Dieu devant le monde. Sommes-nous à la hauteur? Est-ce que nous retenons la vérité? Il y a deux choses impliquées. Il y a le fait d'avoir la vérité, bien sûr, mais aussi le fait de la tenir bien haut. La Bible est la vérité. Mais que peut-elle faire pour le monde si elle est cachée dans un musée? Ou dans des écrits anciens? Il faut qu'il y ait une colonne qui l'élève devant le monde. Et ça, c'est nous. Si ce n'est pas nous, c'est qui? C'est personne. La Bible est la révélation de Dieu à l'homme. Il est donc impératif qu'elle atteigne l'homme, qu'elle soit affichée devant le monde, qu'elle soit proclamée aux nations, qu'elle soit gardée de toute perversion, qu'elle soit correctement interprétée et enseignée. Et c'est la raison pour laquelle l'Église existe. Alors, chers amis, réalisons-nous à quel point l'Église est importante dans le plan de Dieu. Nous ne sommes pas une association humaine. Nous ne sommes pas une organisation à but non lucratif, exonérée d'impôts. Ce n'est pas notre définition. Nous sommes l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Mais il dit aussi, donc je passe à l'appui de la vérité. On a vu la fonction de l'Église dans le monde, c'est d'élever la parole de Dieu devant le monde, mais elle sert aussi d'établir fermement la parole de Dieu dans le monde. Dans le monde. Elle est l'appui de la vérité. Vous voyez cela? Cette métaphore d'appui ou de soutien, je crois comme il dit dans Louis II, qu'est-ce que cela veut dire? Alors je vais vous montrer le même mot dans sa forme adjective. Utilisé en tant qu'un adjectif. Dans deux autres versets. En 1 Corinthiens 15, 58, ça va nous aider à comprendre ce mot. Il dit « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, et voici notre synonyme. Inébranlable. » C'est le même mot. Inébranlable. Travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, etc. On le tient inébranlablement. Colossiens 1, 23 dit ceci. Mais il vous faut bien sûr demeurer dans la foi fermement établie. Le second a encore inébranlable, mais fermement établie sur ce fondement. Il faut le tenir fermement établi. Dans ces deux versets, l'idée est de rester inébranlable, fermement établi, solide, ferme, constant. Donc, quelle est l'Église par rapport à la vérité? Elle n'est pas seulement celle qui l'élève bien haut devant le monde, en la proclamant, elle est celle qui la tient ferme et inébranlable dans le monde. Alors dis-moi, est-ce que les églises ont-elles toujours réussi à faire cela? Vous savez que pendant des siècles, il y avait très peu d'églises en Europe qui pouvaient proclamer correctement la réponse à cette question. Comment un homme peut-il être justifié devant Dieu? Les églises ne pouvaient pas vous le dire. Elles ne tenaient plus bien haut la vérité. Elles ne tenaient plus fermement la vérité. L'appui, le soutien a tremblé. Beaucoup d'églises locales n'ont pas réussi à garder la vérité d'une manière immuable. Et si ce n'était pas pour la réforme, qui sait où nous serions aujourd'hui? Dieu est très gracieux. L'Église est la gardienne de la vérité. Alors dites-moi, combien d'églises locales ont continué à tenir la vérité de manière inébranlable pendant plus que 50 ans, 100 ans, 150 ans? Très très peu. Combien d'églises ont même duré 100 ans sans s'éloigner de la parole de Dieu? Écoutez ce verset dans la Bible de Sommer, je trouve que c'est très bien dit. Cette église est une colonne qui proclame la vérité et un lieu où elle est fermement établie. C'est une très bonne traduction. Voici donc notre fonction principale dans le monde. L'Église sert à élever la parole de Dieu devant le monde, et l'Église sert à établir fermement la parole de Dieu dans le monde. La seule structure instituée par les Écritures et ordonnée par Dieu pour la propagation, la manifestation, la préservation de la vérité de Dieu dans chaque génération est l'Église locale. Christ l'a achetée avec son sang. Elle est précieuse à ses yeux. Et donc, je termine avec quelques applications. Première application, je crois, est simple. À vous de juger si ces applications sont bibliques. Je crois que ces versets servent d'appel à tous ceux qui se disent chrétiens à s'identifier à la vie et à la structure d'une véritable Église. Si l'Église locale est la maison de Dieu, n'est-ce pas un appel à tout chrétien de s'identifier, de se joindre et de vivre sa vie en relation avec la maison de Dieu? Je crois que c'est clair. Une deuxième application, c'est que ces versets prouvent que la fonction principale d'une église dans le monde est de lui apporter la vérité. Face au monde, nous sommes la colonne et le soutien de la vérité. C'est notre fonction. C'est très noble pour le monde de dire, et j'ai entendu les gens dire, partir dans des missions soi-disant chrétiens, ils disent, bon, je pars dans un certain pays pour nourrir le corps, éduquer l'esprit, mais je vous assure, je ne vais pas faire de prosélytisme. Ah, le monde voit ça. Oh, que c'est beau, ça. Il met le corps et l'esprit avant l'âme. Voilà. Les chrétiens doivent faire le bien, bien sûr, mais l'Église, en tant que corps et temple de Dieu, n'est pas dans le monde pour faire du social. Nous y sommes pour être la colonne et l'appui de la vérité. Et malheureusement, il y a même des chrétiens qui considèrent que l'église locale existe pour servir un peu comme un centre commercial spirituel. C'est-à-dire un centre où ils peuvent aller facilement, et pas cher, hein, trouver toutes les commodités qu'ils recherchent pour leur vie spirituelle. Il y a des gens qui changent d'église, et quand vous cherchez à comprendre un peu leurs motivations, vous découvrez que les motivations sont totalement égocentriques. Parce que je ne me sentais pas à l'aise, ou parce que j'aime mieux ceci, ou parce qu'il faut que je puisse faire ainsi. Et nous vivons dans une société où l'égocentrisme est si endémique que l'Église est considérée comme une simple commodité, une convenance. Et la situation est tellement grave que souvent les églises elles-mêmes encouragent les gens à leur choisir pour... Les choisir pour des raisons égoïstes. C'est-à-dire, choisissons-nous parce qu'on peut vous donner ceci, ou cela, ou cette autre chose. Mais quelle honte de choisir la maison de l'Éternel en fonction de ses propres désirs ou besoins ressentis. Alors à vous, mes frères et sœurs, d'évaluer vraiment vos motivations. La fonction principale d'une église n'est pas de vous mettre à l'aise. Elle n'est pas de vous donner un dimanche agréable, elle n'est même pas, merci Seigneur, de terminer le culte à l'heure. Elle n'est pas de présenter au monde un message religieusement correct, hein, pour comparer au politiquement correct. Si vous voulez évaluer une église selon la fonction qu'elle doit occuper dans le monde, voici la question à se poser. Écoutez bien. Est-ce qu'elle élève fidèlement la parole de Dieu dans le monde en la proclamant? Et est-ce qu'elle tient fermement la parole de Dieu dans le monde en la protégeant? Ces versets prouvent que la fonction principale d'une église dans le monde est de lui apporter la vérité. Et il ne faut pas qu'on perde chemin là-dedans. Et troisièmement, ces versets démontrent l'importance de notre conduite à l'accomplissement de notre fonction principale dans le monde. Notre conduite est importante. Comment portons-nous bien haut la vérité? L'avez-vous vu dans le verset? Regardez-le à nouveau. Je recommence au verset 14. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Donc Paul voulait venir en personne, mais voici la raison pour laquelle il écrit cette lettre. Parce que si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Il faut se conduire d'une certaine manière pour être une bonne colonne de la vérité. La conduite est importante. Il faut que les hommes prient avec des mains pures. Il faut que les femmes aussi se parent d'une certaine manière. Il faut que les anciens soient ainsi... Et que le diacre soit ainsi, le comportement, la conduite est de la plus haute importance à tout moment. Parce que notre raison d'être est plus grand que nous. Nous sommes ensemble une colonne de vérité. Je pense que ce que cela nous montre, c'est que nous avons tous un lien indéfectible avec l'Église de Dieu vivant. Tout notre comportement se reporte, si vous voulez, sur l'Église. On ne peut pas vivre n'importe comment, ça reporte, c'est un lien avec l'Église. Timothée pouvait sortir et voir les colonnes érigées pour montrer la grandeur de Diane, un dieu mort. Mais Paul dit, et Paul donne à Timothée une solide doctrine et des instructions concernant le comportement des membres de l'Église, car ils font partie, ils sont la colonne du Dieu vivant. Votre comportement dit quelque chose à propos de votre Dieu. La pureté doctrinale ainsi que le comportement de l'assemblée était tellement important, vous voyez, pour l'apôtre ici, qui désire lui-même venir à Éphèse. Il aurait pu dire, bon, moi je vais évangéliser ailleurs. C'est une église, on ne va pas se plaindre, les choses marchent bien. Allez, je vais ailleurs. Il aurait pu dire, Timothée, je t'envoie aussi ailleurs. Tu as le don d'évangéliste, tu vas aller dans un autre lieu. Non, il dit, toi tu restes là, et moi aussi je veux venir si je peux. Parce que même si l'église est déjà fondée depuis plusieurs années, même s'il y avait déjà des pasteurs, des anciens, même si Timothée, son fils dans la foi, était présent, il veut à tout prix que cette assemblée sache comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui ou le soutien de la vérité. Alors, que pensez-vous de Jésus-Christ? Et que pensez-vous de sa maison, de sa communauté, de la colonne de sa vérité, de l'appui de sa parole? Prions. Notre Père Céleste, nous recevons ces paroles comme des paroles non d'un homme, ni même d'un simple apôtre, mais en tant que ce qu'elles sont en vérité, les paroles de Dieu. Et nous désirons que chacun et chacune puisse avoir la bonne évaluation de ce qu'est Jésus-Christ et de ce qu'est son Église. Éclaire-nous, s'il te plaît, pour ta gloire. Amen.